Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode à la découverte avec ce soir le groupe Clavicule. Comment allez-vous messieurs?
Bonsoir, ça va super.
Ouais, carrément.
Salut.
Ouais, salut. Vous avez fait bonne route?
Ouais.
Oui. Excellent.
Alors, sous la pluie. Un petit peu beaucoup de route, mais les routes étaient bonnes.
Oui. Alors on va parler justement, vous venez de Bretagne et j'ai eu parfois Rennes et j'ai reçu une commande Bandcamp qui venait de Lorient.
Ouais, c'est moi qui vais à Lorient.
C'est toi donc.
Ouais, c'est ça.
Donc tu fais Lorient-Rennes pour aller au répète, c'est ça?
C'est ça.
Ou comment ça sort?
Ah
d'accord. Et ben justement Yann, qu'est-ce qui t'a amené à cet instrument, la basse? Donc.
Ah oula, ça remonte à l'adolescence, ça c'est... j'étais fan du bassiste de Marilyn Manson, Twiggy Ramirez, et c'est ce qui m'a donné envie de faire la basse avec des copains, voilà.
Ouais, et du coup t'as gardé ça?
J'ai gardé ça.
Ouais. Camille, à la guitare rythmique, guitare lead, pardon.
Ouais, un peu les deux. Hein.
Un peu les deux.
T'inquiète, pas de soucis. moi, pareil, j'ai commencé quand j'étais ado avec des potes qui m'ont fait découvrir des groupes de musique, notamment les West Stripes, les trucs comme ça de cette époque-là. Et ça m'a bien fait kiffer. J'avais envie de faire du rock garage dégueulasse. Et le meilleur moyen de faire ça, c'était d'avoir une petite guitare et zou, quoi. Donc j'ai commencé la gratte comme ça.
Et tout en autodidacte ou t'as pris des cours
Ouais, j'ai vite fait pris des cours, mais je pense que j'étais un très mauvais élève parce que je travaillais jamais mes trucs. Et du coup, je pense que ma prof en avait vraiment marre de moi. et après, en fait, j'apprenais beaucoup mieux quand je faisais avec les copains. Et c'était beaucoup mieux comme ça. Et je pense que j'ai aussi beaucoup progressé depuis que je suis en clavicule parce que avoir un groupe, c'est le must de la motivation, quoi.
Ouais.
Donc c'est trop cool, ouais.
Ouais. Et Alexis, à la batterie, donc.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a amené autour des fûts et des pots et des cymbales, des trucs qui...
Bah, moi, c'est quand j'étais tout petit, mon père, il avait plein de CD. Il a toujours plein de CD. Mais aujourd'hui, il a un abonnement Spotify comme tout le monde.
Comme le mien, quoi.
Comment ?
Comme le mien, pareil.
Voilà. Mais avant, il avait des CD comme tout le monde. Et moi, ça me fascinait les pochettes de ces groupes de métal. Iron Maiden, AC/DC, compagnie. Et du coup, je prenais les CD, je les mettais dans mon poste à fond. Et voilà. Et je gesticulais dans ma chambre. Il regardait aussi beaucoup de concerts à la télé et ça me fascinait toujours. Et du coup, bah, c'est ça. Et en fait, j'ai commencé à gesticuler dans ma chambre. Puis après, j'ai eu des baguettes. Et puis en fait, je sais pas, ça s'est fait super facile.
T'as gesticulé avec des baguettes.
Moi, ouais, j'ai gesticulé.
C'est comme ça qu'on devient batteur, comme bah, ça.
Je tapais sur mon lit. Non. Je tapais sur mon lit. J'avais 7-8 ans et puis voilà, ma mère, mes parents, en fait, sont très gentils et ils m'ont demandé si je voulais faire de la batterie vu que je voulais rien faire d'autre. J'ai dit, enfin, ça semblait naturel et du coup, bah voilà, j'ai fait des cours, j'ai eu une batterie et j'en ai quasiment toujours fait depuis.
Et des gros tomes?
Non, j'ai toujours eu des trucs de taille normale.
Ouais.
Mais j'ai longtemps été fasciné par les batteries énormes. Ouais. Voilà, plus aujourd'hui. Parce que je sais ce que c'est que de les porter comme un tronfion, ouais. Donc voilà. Mais voilà, c'est ça. C'est la musique de mon père, notamment.
Ouais. Marius, au chant et à la guitare, donc?
Ouais, moi j'ai commencé par faire de la batterie. C'est mon instrument principal. Plus trop maintenant vu que il y a beaucoup de concerts avec clavicule et je me suis vraiment mis à faire de la guitare et du chant avec clavicule en fait en 2018 et le chant j'avais jamais chanté dans un groupe, la guitare j'en faisais un petit peu depuis quand même quelques années en autodidacte aussi tout seul et voilà et j'avais trop envie de me lancer à faire ça et puis voilà.
Comment est-ce que vous avez monté clavicule?
On s'est rencontrés avec Yann à Châteaubriant. Qui est une ville du 44 où moi j'étais au lycée, j'avais déjà fini le lycée et Yann tenait une boutique de vinyle. Mmh. Et donc je suis venu comme tout bon mélomane acheter des vinyles et il m'a donné une liste de, je sais pas, au moins 30 ou 40 albums de garage à écouter en me disant
à écouter et à acheter surtout.
Et à acheter, bien sûr.
Du coup, t'as fait un emprunt à la banque.
Voilà, et puis maintenant je rembourse toujours tous les vinyles que j'ai achetés ailleurs. Non, et du coup, il m'a proposé de faire un groupe. Et Yann connaissait Camille via une autre début de formation de projet qui n'a pas abouti, si je...
C'est ça.
Voilà. Et puis on a commencé avec un premier batteur sur 2-3 concerts. Et puis il est parti. Et puis on a rencontré Alexis en 2019. Et voilà. Et puis comme ça que ça s'est fait.
Ouais. Et c'est quoi les principaux albums de garage? T'as parlé de 30-40, mais...
Bah, forcément Ty Segall.
Ouais.
Non, je sais pas, il y avait plein de trucs, il y avait Dead Ghost, il y avait du King Gizzard, il y avait du Geo-Seas, ouais. Les classiques quoi.
Ouais, des grands classiques.
Ouais, toute la scène un peu californienne quoi.
Donc tu lui as fait son éducation musicale, bah, garage.
Quand même, ouais.
De garagiste. Le premier album, donc Garage is Dead, sort en juin 2020 et moi je vous découvre à l'occasion de votre concert pour la soirée Arrache-toi un œil, donc qui était à la clé à Saint-Germain-en-Laye. Et là j'avais écouté quelques titres, mais pas l'album en entier et la première, on va dire... Écoute, en concert, ça a amené quand même beaucoup d'intensité au niveau du son. Et moi, j'ai trouvé que déjà, ce qui était intéressant, c'est que les quelques morceaux que j'avais écoutés avant de vous voir, quand je les ai vus sur scène, j'ai tout de suite retrouvé les constructions qui sont très marquantes, et aussi les gammes que vous utilisez lors des solos et des thèmes de guitare qui sont très inspirés orientaux, une inspiration orientale. Comment est-ce que vous en êtes arrivé sur justement sur ce point qui fait vraiment une identité très forte au son du groupe?
Oh ben on aime bien, c'est doux.
Moi j'ai eu une forte période juste avant de rentrer dans le clavicule, une forte période où j'écoutais du jazz oriental et où je me suis découvert une fascination pour les gammes espagnoles, proche-orientales, moyenne-orientales. Et quand je suis arrivé dans le groupe, il y avait déjà le morceau Jericho qui est clairement le plus emblématique de ce style-là. Et je pense que, enfin moi je me rappelle que dans la salle de répète, toi t'as tendance naturellement à aller faire des petits machins, des petits demi-tons, des petits... Voilà. Ouais,
ma mère écoute beaucoup de musique orientale, elle faisait de la danse orientale quand elle était jeune, et je pense que ça a pas mal influé là-dessus. Et puis ouais, du coup, tendance naturelle à faire ça.
Ouais, dès que j'entends un truc comme ça, moi je suis toujours ah oui, et, et en fait... Bah, il y a pas mal de groupes, enfin, il y a quand même eu une tendance, notamment avec King Gizzard, où on a beaucoup retrouvé ça. Mais, par exemple, chez King Gizzard, c'est voulu. Il y a une recherche, il y a une esthétique, il y a les guitares quart de ton sur Bananas, Flying Bananas, je sais plus comment il s'appelle l'album.
Et Microtonal Bananas.
Microtonal Bananas, pardon. Et que, je pense que dans Clavicule, lorsqu'il y en a, le but c'est que ça se marie au reste, aux gammes rock, aux accords rock, grunge très basiques, plutôt que d'en faire un élément, comment dire, plutôt que de faire dire, écoutez, c'est oriental.
C'est ça qui est intéressant, parce que c'est pareil, donc moi c'est ce point-là qui m'a le plus touché l'oreille, enfin qui m'a le plus identifié à votre son. Mais effectivement, comme tu dis, les structures c'est encore autre chose, mais les rythmiques, les guitares rythmiques, elles restent sur des gammes, je dirais pas standard, mais
tu peux dire,
on joue quasiment tous nos morceaux sont en mi ou en demi.
C'est du barré, c'est du power chord, voilà. Efficace quoi.
Ouais.
Enfin,
c'est classique en soi.
Tu donnais l'exemple de Jericho et c'est un exemple qui est hyper frappant. Alors ouais. J'avais pas prévu de la mettre dans la setlist, mais je la mettrai peut-être. J'avais prévu d'ouvrir avec Wake Up, mais
ah ouais,
bah, Wake Up, ça réveille bien.
C'est un morceau qu'on a un peu laissé derrière nous pour le ouais. live, mais des fois on aime bien le ressortir, le dépoussiérer. Mais je sais pas pourquoi on le joue si peu.
On devrait.
Peut-être on s'y retrouve moins maintenant.
Pas ce soir.
Non, pas ce soir.
Ouais, le deuxième point frappant, c'est surtout l'impact basse-batterie. Donc, pour le coup, j'ai eu énormément de mal à le qualifier parce que j'ai pas réellement trouvé le bon terme. Parce que efficace, ce serait trop réducteur. Brutal, ce serait trop primaire. Mais je trouve qu'il y a un côté. C'est pour ça que je te parlais des tomes. Il y a un jeu. Ton jeu sur les tomes, il est très impressionnant et y a, je trouve qu'il y a beaucoup d'impact et ça se marie très très bien avec aussi ton son de basse. Donc comment est-ce que vous travaillez ce point-là? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient naturellement ou...
Ben ouais, moi je joue comme je joue. J'ai joué beaucoup de métal dans ma vie, donc j'ai tendance à en foutre partout et à taper comme un singe.
T'es un bourrin.
Je suis un peu un bourrin, j'aime bien quand il y a plein de notes. Sans aller dans un truc où je me tape un solo non plus. Et ensuite ce qui est intéressant, bah, c'est de faire des phases purement rythmiques avec Ian ou avec Marius aussi à la guitare rythmique, pendant que Camille fait un gros solo dans les aigus et que il y a un gros truc qui se passe entre nous trois sur vraiment juste rythmique. Ça, je pense que c'est un truc que j'aime bien ramener du hardcore, les breakdowns, les choses vraiment, tout le monde fait la même note, tout le monde fait la même rythmique et ça tabasse pendant qu'il se passe un truc très criard de l'autre côté.
C'est ça aussi qui m'a frappé sur certains morceaux, c'est que vous partez sur une structure, il y a un solo qui part, le solo il reste dans sa couleur on va dire, et l'arrière boutique change complètement quoi. Soit vous changez, alors il y a pas nécessairement de changement de tempo, mais des changements de pattern qui déstabilisent beaucoup. Et j'ai trouvé que c'était alors moi dans ce que j'écoute habituellement c'est effectivement pas habituel, mais je trouve que c'est super intéressant parce que à la première écoute effectivement on n'a pas nécessairement l'oreille attirée, parce que moi on a plus l'attrait vers le solo qui part qui etc etc, mais à force d'écouter bah on se rend compte que derrière tout a changé quoi, le paysage a complètement changé.
Je pense que l'élément de progression pour moi c'est hyper important. On peut pas lancer un morceau pour... Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal avec un morceau qui reste toujours comme ça. Peut-être aussi, c'est pour ça qu'il y a des morceaux comme Wake Up, comme t'as dit, que je vais moins apprécier de les jouer. Parce qu'on n'est pas sur des montées, descentes. Et ça, c'est... Bon, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et s'il y avait que moi, il y en aurait encore plus, mais ce qui est cool, ce qui est cool dans le groupe, non, ça veut pas dire que je suis pas satisfait. Ce que ça veut dire, c'est que dans le groupe, bah, chacun accepte ou refuse des propositions de structure, de compo.
C'est toujours un équilibre après à trouver à quatre, quoi.
Et du coup, ça se passe comme ça, et du coup, il y a de la progression, ça va pas dans l'abus, tout le monde trouve sa place, et pour l'instant, c'est cool, quoi.
Non, mais c'est vrai qu'on a ce petit élément où des fois on aime bien aussi surprendre un peu les gens qui nous écoutent en ajoutant quelque chose qui effectivement sort du cadre du morceau, qui serait un classique couplet-refrain, pont, refrain, fini. On aime bien rajouter une petite partie qui soit change rythmiquement, soit change complètement effectivement de rythmique, d'intensité,
ouais, couleur,
juste comme
intensité,
ça.
Ouais.
Et...
Même pour la scène, c'est intéressant.
Bah ouais, c'est ça, c'est que ça rajoute du fun, ça casse un peu la monotonie des morceaux, des structures très rock, très classiques, et ça nous fait un peu kiffer aussi de faire des trucs. Je vais pas dire que c'est compliqué, parce que ça serait vraiment se mentir, mais des trucs qui sortent un peu vraiment du carcan rock très banal, tu vois.
Ouais. L'autre point marquant, moi je vous trouve à l'aise sur des morceaux à la fois courts et punchy, comme Special Trip aussi. Hyper rapide avec une batterie donc qui est très très dure et où il y a beaucoup d'énergie, et vous allez aussi sur des terrains beaucoup plus expérimentaux avec des morceaux comme Cab où vous prenez le temps d'installer des atmosphères, il y a des changements de tempo, il y a même un petit passage limite surf rock dans le milieu du morceau. Bref, enfin, on a une palette vraiment très très large, et d'où est-ce que ça vient et comment est-ce que vous arrivez surtout à lier des parties qui sont si on les prenait bout à bout, ça serait franchement compliqué de les imaginer liées, quoi.
Bah ouais, en fait, je pense que ces trucs-là, déjà, ils sont venus relativement naturellement, j'ai l'impression, et ils viennent de toutes nos atmosphères différentes, parce qu'on écoute tous de la musique relativement différente, plus ou moins, on reste quand même tous à aimer le rock, mm-hmm. dans un terme général, large, ouais. mais comme tu disais, Alexis, toi, tu viens plus du métal, du hardcore, Yann, toi, t'es plus sur des trucs de garage psyché, voilà.
Garage punk,
c'est ça.
C'est plus grunge.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai écouté Nirvana très très souvent. Et puis avec Camille, on se rejoint sur des trucs que maintenant on écoute beaucoup de post-punk aussi, ce genre de trucs. Et je pense que du coup, naturellement, on a voulu pas que faire plaisir à tout le monde, mais du coup montrer toutes ces facettes là. Pour que ça nous ressemble à tous. Mmh. Et voilà.
Mais c'est super dur de tout lier. En fait, quand on est. Parce qu'on compose toujours tous les quatre. Enfin, en tout cas, pour les morceaux que tu as cités, tout s'est fait en jamant et en jouant ensemble. Et du coup, c'est vraiment ou tout l'un. C'est-à-dire, on y arrive, ça se fait tout seul. Il n'y a pas de questions qui se posent. Ou tout l'autre. Et on a plein d'idées. Et on ne sait absolument pas comment les lier. Et des fois, c'est arrivé qu'on mette presque un an à finir un morceau.
Oui, c'est, ça se conçoit. Hein.
Mais ouais, et en même temps, des morceaux comme Cap se sont faits en deux sessions. Ouais. Tu vois.
Mais c'est ça que je veux dire. Je vais finir là-dessus. Des fois, il y a des morceaux qui coulaient tout seuls et d'autres qui étaient plus prises de tête. Mais ça dépend vraiment. Il y a des jours où les moments de compo étaient très fluides et on ne sait pas pourquoi. C'est juste une atmosphère, une ambiance voilà, il y a un état d'esprit. D'un moment clé qui s'y prête passe, et voilà, c'est ça qui est un peu magique dans la compo quoi.
C'est un peu pour ponctuer les phrases. Il y a toujours un peu un truc. Parce que la guitare, la basse, la batterie font. Voilà, ça tient la structure.
Ouais.
Et Marius, il fait ce chant. C'est très visuel, là, ce qu'il chante sur Assol, je trouve. Et du coup, pour moi, il y a toujours un petit. Hop, une petite virgule à mettre.
Bah, je trouve que ça amène beaucoup de dynamique.
Petite calotte.
Ce qui est drôle, c'est qu'Assol, c'est la première chanson qu'on a composée tous les trois. Ouais. Et on l'avait fait à la première répète ensemble. Et en fait, on n'avait pas de batteur. Et en fait, on avait trouvé un mec qui faisait des boucles sur YouTube.
Ouais.
Donc, on l'avait mis dans la sono. Et puis, on jouait sur son rythme à lui. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé l'enregistrement de cette première répète. Donc, je vous le renvoie. Et c'est drôle parce que elle est beaucoup plus lente que ce qu'on a fait après.
Ouais.
Mais c'est drôle parce qu'on avait cette anecdote qui est. Et avec ce batteur de YouTube qui sait pas qu'on a composé une chanson grâce à lui, quoi.
Bah, c'est marrant.
Ouais, c'est marrant. Ouais.
Et justement, de quoi elle parle cette chanson?
De quoi elle parle? C'est toi qui écris les paroles.
Ouais, ouais. Ouais. Ça parle de.
Quand je t'ai lâché le truc.
C'est lui qui a écrit. Ouais.
Non, non, mais ça parle de gens qui parfois qui en savent pas beaucoup, qui détalent beaucoup. Voilà, donc c'est un peu ça, le thème.
C'est un peu ça l'idée.
Darmanin. Ouais, voilà, c'est bon, après c'est.
T'as toussé.
Pardon.
Le deuxième album sort en 2023 qui s'appelle Full of Joy. On vous retrouve, je vous ai retrouvé très solide sur vos bases, avec cette fois-ci donc le CEP et À temps rêvé du roi pour accompagner donc la sortie. Donc est-ce que c'est important d'avoir des labels qui sont référents donc sur la scène française pour sortir un album, et en quoi ça vous aide?
C'est important, oui, je pense vraiment. Sur le premier, on était avec Beast Records, oui, qui est label rennais pour le coup. Et le but de Beast Records est toujours d'amener les groupes vers des plus gros labels. Et c'est pas forcément grâce à eux que ça s'est passé. C'est grâce aux contacts qu'on avait, grâce à notre ancienne tourneuse aussi. Et voilà. Et du coup, c'est important parce que déjà, eux, ils sont déjà bien implantés dans le milieu. Ils ont une estampille qui est très importante.
Ce qui a été cool, c'est surtout que grâce à ces deux labels-là, on était présents chez tous les disquaires indés de France.
Ouais, dans la distribution.
Oui, dans la distribution, c'est cool. Du coup, il y avait une visibilité assez grande là-dessus qu'on avait un peu moins avec Beast. C'est sûr que pour les programmateurs, c'est un gage de qualité de voir qu'on est signé chez des labels qui
permet de montrer qu'on est accompagné,
ouais, ouais,
et que des gens font confiance en notre musique. En fait, par exemple, avec le CEP Records, là, dernièrement, on a joué pour l'anniversaire du label.
Ouais.
Donc, en fait, il y a aussi du partenariat sur du concert. Et du coup, c'est ça qui est cool. Ça permet de rencontrer d'autres groupes aussi qui sont sur le label, etc.
On a joué à la Ferronnerie l'automne dernier aussi pour Attends Rêver du Roi.
Ouais.
Donc c'est bien, ils nous suivent.
Et puis, cool.
Vous aviez vite partagé Rockets en session live qui sonne très grunge. Dans quelles conditions vous avez enregistré donc Rockets l'album? Première question sur Rockets donc qui fait rire.
Bah en fait Rockets on était en lendemain de cuite, mais une cuite gigantesque.
Ouais, gigantesque.
Après plusieurs dates aussi.
Oui, on a plus de
trois dates avant. C'était vraiment le pire moment pour enregistrer une live session d'un morceau de 100 minutes et quelques, je crois.
C'était trois dates
en plan séquence
de fin de tournée un peu.
Ouais.
Et on s'est couché très tard.
Ouais,
c'est la pire idée.
Il y en a qui sont pas couchés.
Voilà.
Et ensuite on a amené tout notre matos donc à la brasserie Le Lab à Nantes. Tout en haut du bâtiment, dans une espèce de... Ça sonne comme un hall, comme une grande salle, ça résonne, c'est l'enfer.
Une salle de réception à la base.
Voilà, c'est très très beau, ça offre un cadre génial. On a rencontré Johan qui a tourné notre live session, voilà, on l'a rencontré pour la première fois ce jour-là. Je sais pas pourquoi il nous a pris, mais il était en droit de nous prendre pour ce qu'il voulait. On était éclatés, on était en sueur pour rien, on était tout blanc, on n'arrivait pas à se mettre dedans.
Je suis retombé sur une photo que Johan a prise. Incroyable, on a des gueules, c'est horrible.
On dirait vraiment qu'on va être malade et on en a chié. On devait faire 5 prises max, on en a fait une 8, douzaine. Ah, non, 8
8.
Ouais. Ok, autant
pour la dernière.
8 prises de 5 minutes dans un stress pas grave, parce que du coup c'est en plan séquence. Donc si jamais il y en a un qui se plante, c'est fini, on est obligé de recommencer.
Il y a une fois où c'est lui qui s'est planté aussi.
Oui,
elle était incroyable. Et là, je me suis planté. Celle qui est sur YouTube, c'est la dernière prise. Et c'était vraiment.
En fait, on s'est vraiment.
C'est la prise de la dernière chance.
En plus, il commençait à faire noir. Donc c'était pile la bonne lumière, mais il fallait pas que ça soit. Il y ait une prise après. Et du coup.
Surtout, il était tard en fait.
Ouais, il était tard.
Quasiment 20h.
Et puis, bizarrement, ça a marché. Et on est plutôt content de cette live session.
Ouais, elle marche bien sur YouTube, c'est
vrai. Carrément, ouais.
Pour parler un petit peu plus de l'album, donc comment vous l'avez enregistré et quelle direction vous vouliez lui donner?
Alors là, contrairement au premier album, on a enregistré en piste par piste. Donc le premier album, on a joué tous les quatre en même temps, toute la partie instru. Et après, Marius a fait les voix et puis on a fait quelques chœurs additionnels, puis rajouté des guitares et tout. Mais le gros de l'album a été enregistré tous les quatre ensemble dans la même pièce. Donc ça pareil, c'était un beau challenge, c'est pour ça aussi que l'album sonne plus live.
Ouais.
Et le deuxième, du coup, on a fait chacun notre tour, un peu plus produit, du coup, des sons plus clean, un son global plus travaillé de toute façon. Et pareil, on a aussi écrit des textes qui ont pris peut-être un peu plus d'importance, sachant qu'à la base, le chant, c'était vraiment un instrument en plus, en fait. Donc on essaie de garder ce truc-là, mais en ajoutant un peu aussi une profondeur
c'est
à nos textes,
quoi. C'est que bah il y a des réflexions assez critiques sans être non plus sans tomber dans le pathos, c'est-à-dire que c'est pas trop insistant.
Ouais.
Il y a des thèmes abordés, j'ai identifié notamment bah, une génération scotchée devant les écrans, bon, ce qu'on est au final peut-être un peu tous, et aussi le réchauffement climatique dans King, dans Keen Blizzard and the Sitar Guitar.
Tout à fait.
Et Wilted Flowers aussi qui parle de ce thème-là aussi.
Ouais. Et justement, qu'est-ce qui vous a amené sur ces thèmes?
C'est je pense que c'est notre angoisse chronique de ce qu'est l'avenir, de l'avenir qui se dessine pour
en fait, monde. Ouais, on en parlait tout à l'heure, c'est il y a des gens, des artistes qui sortent des œuvres qui arrivent à être dénuées de leur réaction sur l'état des choses, en fait. Moi, en ce moment, je baigne dedans comme plein de monde. Moi, c'est là-dessus que j'arrive à écrire. J'arrive pas à écrire sur les jolis vêtements ou les petits chiens.
Après, c'est ce qu'on disait aussi, c'est que heureusement qu'il y a des groupes aussi qui font de la musique un peu joyeuse, et c'est hyper important. Mais nous, c'est vrai qu'on est dans un mood là où on a envie de crier notre détresse dans notre musique, parce qu'en plus on fait de la musique qui peut parfois paraître joyeuse sur certains,
oui, c'est ça, c'est
sur
que
certaines
la musique
instrumentale
est plutôt cool.
Et le titre de l'album du coup est ironique comme c'est pour ça un peu comme le premier d'ailleurs.
Et par exemple Rockets, c'est un texte que j'ai écrit sur le yaourt de Marius, donc à la base il y avait juste le mot Rockets. Je sais pas pourquoi tu trouves des mots comme ça, mais c'était génial parce que c'était vraiment ça fait déjà longtemps, mais c'était vraiment quand il y avait Donald Trump et Kim Jong-un qui se menaçaient mutuellement de s'envoyer des roquettes sur la gueule,
sympa.
Et en même temps il y avait la guerre en Syrie, je crois, et donc il y avait tout un truc sur la guerre, et vraiment c'est typiquement ça. Là récemment, il y a eu le refus d'adopter le congé menstruel donc pour les femmes qui ont des règles douloureuses, par des parlementaires hommes, vieux, riches, et du coup j'ai pondu un texte dessus. C'est instantanément, il y a toujours une petite boulette de caca qui t'arrive dessus, et c'est super facile, en fait, c'est vraiment
c'est
de l'inspiration. Ouais, n'importe qui l'attrape, mais
c'est vrai que
c'est super facile,
pas de bon sujet pour
Et c'est bien parce que ça va résonner avec d'autres gens. Je pense, ça peut pas être que nous que ça fait chier, donc voilà. C'est un peu punk comme démarche. Voilà.
Des Painkillers, en fait, le morceau qui... Alors, il ouvre pas tout à fait parce qu'il y a une chanson d'intro avant. Vous insufflez beaucoup de variations, donc c'est ce qu'on retrouve dans le prolongement du premier album. Vous poussez le contraste vraiment au maximum sur Wilted Flowers, puisque là, il y a un pont qui est assez terrible dans le sens où le morceau est plutôt vénère et le pont prend le temps de revenir à des patterns qui sont moins fournis et sans changer le tempo, ce qui amène beaucoup de relief. Déjà, est-ce que c'est vrai que ça change pas le tempo? Moi, j'ai pas eu l'impression que ça le changeait.
Sur Wilted Flowers, il y a des variations de tempo entre les refrains et les couplets de 2 BPM.
D'accord.
C'est tout. Putain, c'est précis.
Bon, bah alors, pour moi, ça change pas.
Non, ça change pas. Ça change pas officiellement, non.
Parce que moi, j'ai essayé de le chercher un petit peu et effectivement, j'ai vu que le tempo changeait pas.
Non,
trop,
c'est juste, on l'a composé 140 et 143 du coup. 143. On l'a composé sans clic et naturellement, on accélère sur le refrain. Du coup, quand tu te retrouves à enregistrer tout au clic, tu te rends compte que ça colle pas à l'énergie. Donc, j'ai demandé à Dimitri, qui a enregistré donc nos deux albums dont tu as parlé, de prévoir un clic qui accélère sur les phases de refrain.
Je voulais parler aussi des visuels, parce que ils sont hyper importants. Comme je l'ai dit, je vous ai croisé pour la première fois donc à une expo de Arracher un œil. Enfin, le visuel du premier est super impactant. Du coup, j'ai acheté le t-shirt. Et tout le monde dit putain le t-shirt il est trop chouette, et je dis bah écoute l'album il est encore mieux. Et donc comment est-ce que vous travaillez avec avec Amy niveau inspiration?
En fait moi j'ai connu avec leur travail sur le festival Lévitation.
Oui. C'est eux qui l'organisent.
Lévitation non, ils l'organisent pas, ils organisent
Frissons acidulés.
Ouais. Et en fait, on les a naturellement contactés parce qu'on aimait bien l'univers, on trouvait que ça collait bien avec avec ce qu'on faisait. Et à chaque fois, on a eu une idée assez précise de la pochette qu'on voulait. Et elle a réussi toujours à retranscrire exactement ce qu'on lui avait dit. Quoi.
Ça, donc, c'est qu'on lui donnait, enfin les deux fois, on lui avait donné un dessin
un
que j'avais fait, mais ignoble, parce que je ne sais pas dessiner. Et genre, elle a sublimé le truc
On avait très peu de corrections à chaque fois. Ouais. C'était vraiment tout de suite assez.
C'était des coups de cœur, quoi.
Ouais, à chaque fois, les deux, c'était assez fluide au niveau de.
J'ai jamais eu trop de doutes quand vous envoyez.
Elle comprend la vibe, elle écoute les morceaux, elle dit ok. Elle prend quelques mots que tu lui donnes et bam, c'est voilà ce que tu vois.
À tel point que ça finit en 4x3 derrière vous.
C'est ça. En effet.
Ah oui. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oui.
Quelles sont les prochaines dates et quelles sont les prochaines échéances pour vous? On a parlé un petit peu d'un album en préparation, peut-être.
La prochaine date, c'est ce soir.
Oui.
C'est même dans deux heures.
On a 3 dates en mars, c'est ça?
Dans le sud-est.
Sud-est, on joue au Poulpe à Régnier.
À Blois, au Château d'Eau.
À Blois, au Château d'Eau et à Chalon-sur-Saône, à La Péniche.
Ah oui.
Et les échéances, il y a un projet, de futur album. On est en phase de compo.
Voilà. Ça bosse donc.
Ça bosse. À
beaucoup
fond.
De taf.
Ouais, mais c'est cool. Voilà.
Je voulais clore l'épisode donc avec Queen Blizzard and the Sitar Guitar avec excellent un clin d'œil vers l'Australie. Alors, une fois de plus, le morceau propose beaucoup de relief avec une fin qui est très douce, justement. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette douceur alors qu'on parlait de faute très très froid
C'est que Marius, tu devais jouer les accords en clean un peu en passant le temps comme ça dans le studio.
Ouais.
Et à un moment donné, t'as fait une variation.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Et j'ai proposé que ça soit l'outro. T'as mis une couleur sur l'accord et j'ai proposé que ça soit l'outro en clean et ayant rajouté ces petites basses, ces petits doigts. Et c'était cool.
Et puis on aime un petit peu d'amour aussi, des fois, dans ce monde. Donc on a décidé de faire des petites outro comme ça.
On a besoin de s'adoucir quand même, des fois. Ouais.
Un peu comme sur Inet où on essaye aussi d'adoucir un peu les choses et de mettre un peu de. Un peu de pétales de fleurs dans ce monde.
Créer des contrastes, c'est intéressant aussi. Oui, quoi. Donc, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Quoi. Donc, commencer doucement et de vénère, ou l'inverse. Quoi.
Youpi. Eh bien, merci beaucoup. Et
merci
à la prochaine.
Merci à toi.
Merci à toi.
Salut.
Ciao.